Qu'est-ce qui est le plus important dans l'évangile? Est-ce que ce sont les foules qui se rassemblent autour de Jésus, qui le suivent parfois, qui le poursuivent, même si ça ne dure pas? Nous l'avons vu cet été avec la fin du discours du pain de vie dans l'évangile de Saint Jean. Beaucoup s'en vont à la fin. Est-ce que ce sont les foules ou est-ce que ce sont les personnes qu'il guérit, comme ce sourd-muet dont on ne connaît pas le nom et dont l'évangile ne rapporte pas, puisque de toute façon, Jésus a dit de n'en rien dire à personne. Les phénomènes de foule, c'est vraiment quelque chose de fascinant. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas. Il faut d'abord l'interroger pour nous sur le plan religieux. Parce que nous le savons, et d'ailleurs ça a été le succès des JMJ, ça peut très bien favoriser la foi. Par le sentiment, par le rassemblement, le sentiment de communion, et même le sentiment de puissance que ça peut donner, des foules immenses. Et une philosophe, la philosophe Simone Weil, disait d'ailleurs que la foule, le collectif, a quelque chose de, même de transcendant, disait-elle, à l'égard de la personne humanisée, même c'est la seule chose, ici-bas, qui puisse mériter une fin. Il y a de très belles pages dans La pesanteur et la grâce sur le sujet. Mais elle était très réservée dessus en disant « mais ça peut être aussi un objet d'idolâtrie, la foule. » Car ça peut effectivement favoriser la foi, mais ça peut l'empêcher, la bloquer. Ces phénomènes de foule qui sont parfois plus que dérangeants, elle a un caractère incontrôlable. Ça peut aller jusqu'à la folie. En tout cas, à l'image d'ailleurs de cette guérison, il y a une forme de surdité d'une foule. On peut parler à une foule, mais qu'est-ce que la foule entend? On ne sait pas. On peut lui parler, lui faire passer des messages, la haranguer. On peut même chercher à interpréter, lui prêter des désirs, se dire voilà ce que la foule, voilà ce que le peuple, voilà ce que le collectif souhaite, voilà ce qu'il demande. Mais c'est une relation qui est, sinon illusoire, éphémère. Parce que la foule n'a pas de mémoire. La foule n'a pas de constance, la foule n'a pas de fidélité. Elle est aussi prompte à se réunir, à s'enthousiasmer, à acclamer, finalement, qu'à se disperser quand ce n'est pas pour conspuer ou même se révolter. La foule n'est pas un être en soi. On a dit dans l'histoire que c'était comme un enfant capricieux. Non, c'est pas un être en soi. Même Platon dans La République en parle comme d'un gros animal. Ce gros animal qui est la bête sociale. Non, la foule n'est pas un être en soi, la foule est un événement. C'est un événement, c'est un rassemblement passager dans un lieu et dans un temps donné. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, en tête une vision du livre de l'Apocalypse qui dit « J'ai vu, en parlant de tous les saints du royaume, j'ai vu une foule immense de tous les saints, une foule immense que nul ne peut dénombrer. » C'est au chapitre 7 de l'Apocalypse, mais il faut pouvoir continuer la lecture et comprendre que cette foule n'est là que pour diriger nos regards vers Dieu, vers le trône où siège l'agneau. Dans l'Évangile, quand on parle de foule, quelle est la taille de ces foules? Si la suite immédiate de l'évangile de Saint-Marc raconte la deuxième multiplication des pains. Et le texte dit qu'il y avait ce jour-là, ils étaient environ 4000. Ils étaient 5000 à la première multiplication des pains, 4000 là. Pour avoir un ordre de grandeur, 5000, c'est deux fois le nombre de places qu'il y a dans l'église Saint-Sulpice, qui est la plus grande église de Paris, plus grande que Notre-Dame. Au jour de la Pentecôte à Jérusalem, quand ceux qui ont entendu la parole de Pierre ont demandé le baptême, ils étaient environ 3000. Voilà un petit peu des ordres de grandeur qu'il faut rapporter à ceux de l'époque et en réalité à ceux de l'Empire romain. Ceux de l'Empire romain, au Colisée à Rome, il y avait 50 000 places. C'était le Parc des Princes. C'était autrement plus colossal. Parce qu'à Rome, au tournant de l'ère chrétienne, sous le règne de l'empereur Auguste, il y avait 1 million d'habitants. 1 million. Et il faut attendre en Europe le 19e siècle pour que les grandes capitales européennes puissent atteindre ce chiffre. Londres, aux alentours au début du 19e, vers 1800. Paris, vers 1850. Mais imaginez, du temps de Jésus, 1 million de personnes à Rome, dans quelles conditions de vie, de subsistance, de promiscuité, les problèmes de nourriture, les conditions matérielles et sanitaires. Oui, nous pouvons se dire, ouh, il est bon d'être ici. L'année prochaine, 2025, sera une année sainte. Tous les 25 ans, il y a une année sainte depuis à peu près le 15e siècle. En réalité, l'année sainte, l'année jubilaire, c'est une prescription biblique qui a été ravivée en 1300 par le pape Boniface VIII, qui a dit que ça aurait lieu tous les 100 ans. Et puis, un siècle après, le pape Paul II a dit non, c'est tous les 25 ans. Et c'est une année jubilaire, ça veut dire quoi? C'est une année de renouvellement, on repart de zéro. C'est surtout une année de rémission des péchés. Et tout au long de l'histoire, depuis 5 siècles, ça a eu un succès considérable. En 1575, fin du XVIe siècle, 300 000 personnes sont venues de toute l'Europe à Rome pour se confesser. En 1825, 500 000 dans les conditions de transport de l'époque. Est-ce que c'est l'objectif de l'Église ? De réunir, d'attirer, de rassembler les foules ? Est-ce que c'est l'objectif de l'Église de faire du chiffre ? Nous avons besoin de rassemblement. Et nous avons besoin d'intimité. Et il faut pouvoir tenir les deux. Nous avons besoin d'événements, de grands événements. Et nous avons besoin de rencontres personnelles. Et c'est ce que nous voulons vivre à la messe. Le Christ nous rassemble pour nous parler à notre cœur, dans notre intimité, pour favoriser cette rencontre personnelle avec lui. Dans l'évangile, Jésus prend cet homme que la foule lui a amené. Il l'extirpe de la foule, il le prend à part. Et il pose sur lui des gestes. Il faut avouer, on n'aimerait pas que d'autres personnes voient que Jésus fasse ça sur nous. Mais les doigts dans les oreilles, la salive sur la langue. On dit, non, mais à l'époque, la salive était utilisée comme un remède. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est avec de la salive que Jésus a fait de la boue pour guérir l'aveugle-né. Non, ne nous arrêtons pas à ces éléments. Soyons plutôt sensibles au soupir que pousse Jésus quand il pousse en réalité un gémissement. Jésus pousse un gémissement et les yeux levés au ciel, il dit « Ephphatha, ouvre-toi ». Ce gémissement, c'est le signe de l'Esprit Saint. La création tout entière gémit, dit saint Paul. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Parce que nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre pleine adoption filiale. Ce que dit la prière d'ouverture, de devenir vraiment pleinement des enfants de Dieu. Par ce gémissement, Jésus sauve cet homme. Parce qu'en réalité, il prend sur lui sa souffrance, son malheur. Et à travers lui, c'est toute la foule qui s'adresse. En leur demandant à tous de garder cela dans leur cœur. De n'en parler à personne. De garder cela dans leur cœur. La mission de l'Église, c'est pas d'essayer de rassembler le maximum de foule. C'est d'entendre les souffrances et de donner l'espérance. Les deux, entendre, écouter les souffrances et redonner l'espérance. C'est ce qui s'est passé au buisson ardent quand le Seigneur a appelé Moïse et lui a dit « J'ai vu les souffrances de mon peuple, je sais son esclavage. » Je connais ses souffrances. Il a envoyé Moïse pour guider son peuple vers la liberté. Moïse s'est arrêté à la porte de la terre promise. Le Christ est cette porte. Il a pris sur lui nos souffrances. Saint Paul dit qu'il s'est fait péché pour nous, pour guérir notre cœur, pas seulement nos oreilles, notre écoute, pas seulement notre langue, notre cœur pour nous redonner l'espérance. Mes amis, nous avons besoin de rassemblement et nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin d'événements et nous avons besoin surtout de rencontrer le Christ. Puissions-nous, comme cet homme, délivré par Jésus, entendre sa parole pour pouvoir lui dire notre amour.